Vous écoutez Parole de France, le podcast politique de Cluster 17. Cette émission interroge des Français sur leur parcours de vie et sur les principaux clivages du débat public selon notre méthode de segmentation de la société en 16 groupes homogènes. Pour chacun des épisodes, je suis parti à la rencontre de connaissances, d'amis, de membres de ma famille représentant l'un des 16 clusters. Je leur ai posé les mêmes questions sur les mêmes sujets. Parole de France, une émission produite par Guillaume Tricard pour Cluster 17.
Michel a 78 ans. Il vit à Sète dans l'Hérault depuis qu'il a pris sa retraite il y a une dizaine d'années. Né au Maroc de parents espagnols, il a travaillé dans le secteur du bâtiment pendant toute sa carrière. Michel habite avec sa femme dans un quartier d'immeubles résidentiels sur les hauteurs de Sète. Il appartient au cluster des eurosceptiques, un groupe qui comprend principalement des salariés précaires et des petits retraités. Ils sont souvent âgés et de culture chrétienne. Ils sont l'un des groupes les plus dégagistes et anti-système, ce qui se manifeste par le rejet des élites, une forte demande de taxer les riches et un rejet massif des délocalisations d'entreprises françaises. Les eurosceptiques sont également anti-mondialisation et très sceptiques à l'égard de la construction européenne. Hostiles à l'immigration et à l'islam, ils ne sont pas les plus radicaux sur la question. De même, ils sont clivés sur la question de l'adoption pour les couples homosexuels. Sur le plan économique, les eurosceptiques sont très divisés sur plusieurs sujets. Sur le plan électoral, ce cluster vote massivement pour le Rassemblement national depuis de nombreuses années. En 2022, c'est Marine Le Pen qui était arrivée largement en tête, rassemblant plus de 70% des voix au sein de ce groupe.
Bon, Michel, bonjour.
Bonjour, ça va, tu vas bien?
Ça va et toi?
Ouais. Ça va.
Donc j'aurais voulu que tu me racontes d'où venait ta famille, tes parents, tes grands-parents, dans quel milieu familial tu as grandi. Voilà, si on pouvait commencer par ça.
Bon alors déjà, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents venaient d'Argentine, je pense. Puis après, bon, mes grands-parents sont en Espagne, de région de Malaga. Ils ont fui le régime de Franco. Ils sont arrivés au Maroc. Ma mère est née au Maroc.
Qu'est-ce que faisaient tes parents quand toi tu es né?
Moi, mon père, quand il est arrivé au Maroc, il ne parlait pas le français. Et au niveau du travail, il était livreur. Il livrait des pains de glace. Ma mère ne travaillait pas. Et un jour, comme mon père était un grand sportif, il était cycliste. Et un jour, dans le monde du cycliste, il a réussi à rentrer dans le journal national, hein, qui était la Vigie marocaine et le Petit Marocain. Il a appris à s'occuper des rotatives et tout ça. Et ma mère a travaillé aux Galeries Lafayette, au service de fromagerie.
Justement, ton enfance, là, t'es dans un milieu, comment tu le qualifierais?
Ouvrier.
Un milieu ouvrier?
Ah oui, tout à fait. Ouais, des gens simples. J'ai un frère et une sœur. Hein. On était tous dans la même maison. À l'époque, c'était comme ça. Je pense que même en France, hein. pas de toilettes individuelles, pas de salle de bain. On se lavait dans la grosse bassine, quoi, le train-train habituel de l'époque. Hein. Et puis on habitait dans un immeuble. On appelait ça la cour du miracle, hein, parce qu'il y avait toutes les races confondues, toutes les religions confondues aussi, et donc c'est en bonne harmonie, hein. Il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Quoi.
Comment ça s'est passé à l'école?
J'étais un bon élève, hein. J'ai fait mon école primaire, dans toutes les écoles françaises, hein, qu'on avait à Casa. Puis après, en troisième, j'ai commencé un peu à déconner, et j'ai voulu rentrer dans le technique, et je suis rentré dans une école qui s'appelait l'école industrielle, où j'ai fait ma formation pour travailler plus tard. Je suis parti à l'armée. J'arrive à Mourmelon, de Casablanca à Mourmelon, ça fait un beau changement. Hein.
Est-ce que tu étais déjà allé en métropole avant ça?
Oui, j'ai été sportif de haut niveau, en volley-ball, et j'ai un peu parcouru un peu le monde, hein, grâce au volley.
L'Espagne, c'était important? Vous parliez espagnol?
Ah
à
oui,
la
oui, oui. Ah oui, parler l'espagnol, on allait même en Espagne, voir mon père avait de la famille encore, à Malaga. Il faut dire une chose, c'est qu'avant l'indépendance, il y avait une partie du Maroc qui était espagnole. Toute la partie nord, Tanger, Tétouan, Méliade, ça, c'était espagnol. Donc, on passait la frontière entre le Maroc et l'Espagne au Maroc, à l'arrache.
Et la France, du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que ça représentait dans ton enfance?
J'ai commencé à aller en France quand j'ai passé mon service militaire. Quand j'ai quitté Casablanca, la veille, j'avais été faire de la plongée, je me baignais. Déjà, en arrivant à Marseille, j'avais froid. Après, on a pris le train jusqu'à Montmelon. Montmelon, il faisait moins 15. Bon, j'ai eu de la chance parce que j'étais sportif de haut niveau. Donc, j'ai fait mes classes. J'ai monté une équipe de volley, quoi. J'avais un peu la planque, quand même.
Et donc, alors, à quel moment est-ce que tu pars vivre en France? Quand est-ce que tu as quitté le Maroc?
Je suis arrivé en France en 74. Quand je suis revenu de l'armée, j'ai connu une personne, je me suis marié, toujours à Casablanca. J'ai travaillé, hein, j'ai travaillé dans des bureaux d'études. Et puis, le problème, c'est qu'à cette époque-ci, les étrangers, parce qu'on était devenus étrangers, puisque c'était devenu marocain, on avait des contrats de travail de 2 ans. Et quand le contrat de travail n'était pas renouvelé, eh ben, il fallait partir parce que... On ne pouvait plus rester. On avait décidé de rentrer en France.
Dans un pays, finalement, la France, que tu connaissais très mal.
Très mal. Je ne connaissais pas du tout. Et j'avais postulé dans les grandes villes, Marseille, Nice, parce que c'est le soleil, Lyon, et vraiment, en dernier recours, Paris, quoi. Et c'est à Lyon qu'on a atterri. On s'est retrouvé au quartier de Vèze, dans un hôtel. Et au bout de 10 jours, on voulait repartir au Maroc. Et un jour, en se promenant, j'ai rencontré... Il y avait une agence immobilière, je rentre, c'était un gars qui était né à Casablanca, sa femme aussi, nous, et on a sympathisé, il nous a trouvé un appartement à la Duchère. Ça a démarré comme ça, j'ai trouvé une place dans un bureau à Lyon, à la Croix-Rousse.
Donc là, tu as fait une carrière de technicien?
Oui, je faisais des études de béton armé, et voilà, et puis ça s'est enchaîné, puis un jour... Mauvaise période, hein, c'est en 80, licenciement économique, dernier arrivé, non, je me suis retrouvé au chômage. Et puis j'ai trouvé une place à Cannes. Alors là, ça a foutu le bordel. Parce que mon épouse de l'époque ne voulait pas venir. Il a fallu que je remonte sur Lyon, je donne ma démission, je remonte sur Lyon pour divorcer. Puis je me suis retrouvé encore au chômage. Et un jour, je vois... promoteur constructeur à Montpellier cherche même pas ingénieur du tout, dessinateur projeteur, troisième échelon et tout ça. Donc j'ai travaillé 6-7 ans et puis un jour j'avais été voir mon patron et j'avais dit voilà, je veux avoir une augmentation. Il m'a dit non, c'est pas possible. J'ai dit bah écoutez, eh ben, à 14h vous aurez ma lettre de démission. Et j'ai donné ma démission. Et je me suis mis à mon compte avec un autre, on a ouvert un bureau de dessin. Alors on a travaillé pendant des années comme ça, tous les deux. Je travaillais trop, je travaillais la nuit, je travaillais le samedi, le dimanche, j'avais plus de vie, quoi.
Ouais.
Heureusement que j'avais des bonnes relations. J'ai un ancien collègue du promoteur. Il me dit, ouais, il y a un tel qui a un bureau d'études, va le voir. Ils sont pas beaucoup, ils sont que deux. Et je suis rentré pour 6 mois et je suis resté 10 ans.
Tu te souviens, tu l'as prise à quel âge ta retraite?
64 ans.
J'ai une question, je reviens largement en arrière, mais je pose aussi toujours cette question aux personnes que j'interroge, c'est est-ce que tu trouves que tu as eu une enfance plutôt heureuse ou plutôt malheureuse, plutôt difficile? Comment tu la qualifierais?
Sans aucun doute, heureuse.
Ouais.
Parce que j'avais des parents comme ça, super, super sympas, super gentils. Ils faisaient tout pour qu'on soit pas riche, hein, parce que c'était des ouvriers. Hein, mais non. Puis, je ne vais pas comparer la jeunesse de maintenant à la jeunesse d'avant. Avant, on n'avait pas de télé, on n'avait pas de téléphone. On était toujours dehors. On rencontrait les copains, les copines. Sans ambiguïté, toujours... on allait à la plage, hein, en vélo. On faisait du camping. Le camping sauvage était autorisé, donc... Non, la belle vie, franchement, c'était la belle époque.
En fait, tu viens de différentes cultures, parce que des parents espagnols qui ont émigré au Maroc, et du coup, une enfance au Maroc, 30 ans, puis après la France.
Ouais.
Comment allait ton identité?
Moi, d'abord, je suis espagnol à 100%. Après, le Maroc, c'est le pays où je suis né. Donc, quand je vois une voiture du Maroc, ou que je vois des gens qui parlent, qui disent qu'ils sont du Maroc, alors là, je deviens... Je fais tout pour discuter avec eux. Et la France, parce que c'est le pays qui m'a accueilli, quoique j'étais français, puisque j'ai fait mon service militaire.
Ouais. Donc Michel, tu me dis que tu étais né en 1945, donc tu as le droit de vote, à l'époque c'était 21 ans. Quelle est la place du vote dans ta vie? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Est-ce que tu vas voter? Est-ce que tu as toujours allé voter? Est-ce que tu peux t'abstenir?
Mon premier souvenir de vote, ça a été en 81, j'ai voté pour Giscard.
Ah, est-ce que tu te souviens pourquoi tu avais voté pour Giscard?
Mitterrand, je ne l'aimais pas, déjà. C'était physique. C'était un mec qui a tourné tellement sa veste, donc je ne l'ai jamais aimé. Pour moi, c'est un homme qui a foutu une merde terrible en France. Chirac, lui, il a roulé pas mal de monde, hein, mais il avait une autre allure. Celui que j'ai aimé le plus, c'est Sarkozy.
Est-ce que tu pourrais te définir politiquement ?
Politiquement, actuellement, moi je suis pour Marine Le Pen.
Souvent la classe extrême droite ?
Non, c'est pas son cas, je pense pas. Je pense que le père, quand on parle de Le Pen, on pense au père. Mais le père, ça y est, il est obsolète depuis des années, c'est fini, on n'en parle plus. Marine Le Pen, elle a mis du temps à pouvoir vraiment dire ce qu'elle pensait. Et je pense qu'actuellement, elle est plus sociable que les socialistes.
On a parlé de 80, donc c'est ton premier vote. Alors en 88, c'était Mitterrand contre Chirac. Là, tu avais voté pour...
Chirac.
Ensuite, en 95, c'est Chirac contre Jospin.
Chirac.
En 2002, c'est Chirac contre Jean-Marie Le Pen.
Chirac.
Alors en 2007, là, le personnel politique change. Il y avait Sarkozy contre Ségolène Royal.
Sarkozy.
Et ensuite Nicolas Sarkozy en 2012 contre François Hollande.
Sarkozy.
Ensuite 2017, c'est un peu plus proche, Emmanuel Macron contre Marine Le Pen.
Marine Le Pen.
C'était l'an dernier, en 2022.
Le Pen.
Je te redonne les noms des candidats qui étaient à l'élection l'an dernier et tu me dis rapidement ce que tu penses d'eux.
Ouais.
Sur le côté droit, il y avait Éric Zemmour.
Alors, Éric Zemmour, il dit des vérités. Il était, pour moi, il était un peu léger.
Alors ensuite, Marine Le Pen.
Marine Le Pen, je pense que c'est elle qui peut un peu rétablir l'équilibre.
Qu'est-ce que tu apprécies dans ce qu'elle dit ou dans ce qu'elle incarne ?
Elle est d'abord pour les Français. D'abord, on s'occupe des vrais Français. Moi, qui suis d'origine espagnole, ça la fout mal quand même. Hein. Mais bon, ça fait tellement d'années que je suis plus sensé qu'espagnol maintenant. Même si au fond de moi-même, je ne peux pas renier mes origines. Mais voilà, moi, Marine Le Pen, c'est parce que la France d'abord, les autres après. Elle a mis du temps, mais maintenant, elle commence à être beaucoup plus sociale.
Alors après, il y avait Valérie Pécresse.
Niette. Non.
La droite, finalement, c'est le courant politique pour lequel tu as toujours voté,
toujours
avant Marine Le Pen.
Oui, mais parce qu'à l'époque, la droite, elle était... Il y avait des costauds.
Ok. Bon, Emmanuel Macron, donc, qui est président.
Je ne l'aime pas. Je dis, franchement, je ne l'aime pas. Il n'apporte rien.
Anne Hidalgo.
Alors, non.
Yannick Jadot.
C'est qui, ça ?
Les écologistes.
Les écologistes, ils me gonflent. On peut être écologiste à sa façon, sans être obligé d'emmerder tout le monde, parce qu'eux, ils emmerdent tout le monde.
Et Jean-Luc Mélenchon ?
Je l'aime pas. Déjà, c'est un Tangérois. Et lui, il est là pour foutre la merde. Hein. On peut avoir des idées, hein, mais on n'est pas obligé de foutre le souk, quoi.
Donc, tu m'as dit clairement que tu avais toujours voté pour des candidats de droite aux élections. Est-ce que tu te qualifierais de droite ?
Bien, oui, finalement. Mais j'ai un petit côté un peu social. J'aime pas ceux qui profitent du système et qui emmerdent tout le monde. Moi, je me suis toujours battu pour gagner des sous, pour travailler, donc ça, je supporte pas.
On va parler des grands sujets qui reviennent dans l'actualité, des grands sujets, tu vois, de société. Je vais commencer par le sujet de l'immigration, tout simplement te demander ce que t'en penses.
Moi, ça va être un peu... Je peux tirer par les cheveux parce que mes parents, ils ont été émigrés, hein, quand même. Ils ont fui l'Espagne parce qu'il y avait la guerre. Moi, j'ai quitté le Maroc parce que bon, on m'a foutu dehors. Après l'immigration, c'est très compliqué. Comme je disais tout à l'heure, les Français d'abord, les autres après. C'est vrai que ces peuples où il y a la guerre, comme en Ukraine, un peu partout, où ces Africains qui prennent des bateaux de fortune et qui... On peut pas prendre toute la misère du monde en France. Hein. Je suis contre l'immigration.
Est-ce que c'est une évolution dans ta vie ou tu as toujours été assez hostile à l'immigration ?
Ben, c'est une évolution parce que j'ai constaté que... Moi, au début, quand je suis rentré en France, quand j'ai demandé de l'aide, on me l'a toujours refusé. Et les migrants, quand ils arrivent maintenant, on leur donne tout. Alors qu'on a des pauvres Français qui vivent certains dans leur bagnole. Donc, moi, pour d'abord les Français, les autres après.
Je voulais te demander si toi, tu avais une religion.
Ben moi, j'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion, mais je suis très cartésien. Je crois qu'à ce que je vois et ce que je comprends.
Est-ce que tu te définirais pas comme chrétien aujourd'hui ?
Je suis athée. Des fois, j'ai toujours à dire, mon Dieu, faites qu'il ne se passe rien pour mes enfants, mes petits-enfants. Mais au fond de moi, je crois pas.
Et donc, il y a une religion dont on parle plus que les autres ces dernières années en France, et notamment l'an dernier pendant les élections. Enfin, ça arrive régulièrement, donc c'est l'islam. Qu'est-ce que tu penses de cette religion, du coup ?
Moi, l'islam, j'aime pas. Alors moi, je suis pour les musulmans qui bossent en France, qui ont payé leurs impôts, qui ont élevé leurs enfants en France, qui ont participé à la vie française. Hein. Ceux-là, je les accepte, parce qu'ils ont autant de droits que les autres. D'ailleurs, la plupart sont français. Hein. Ceux qui le méritent, pas de problème. Ceux qui viennent pour foutre le bordel, ils restent chez eux.
Par exemple, alors, il y a des questions autour de l'islam dont on a parlé là, ces derniers qui sont dans l'actualité de temps en temps. Par exemple, la question du voile. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Je suis pas pour le voile. On est dans un pays laïque, on respecte le pays qui te reçoit, c'est tout.
Donc toi, tu penses que le voile devrait être interdit ?
Interdit dans les écoles, et même dans la rue. On en a beaucoup ici. Alors, les femmes, elles sont habillées tout en noir avec le voile, et l'homme, il est à côté en t-shirt, jean, tennis Nike ou Boss, lunettes de soleil. Pourquoi ? Est-ce qu'il a tabasse ? Est-ce qu'il lui fait peur ? Voilà. Ça, je supporte pas.
On va parler d'écologie. Tu pourrais te définir comme écolo dans ta vie de tous les jours, ou c'est pas quelque chose d'important ?
C'est quoi l'écologie ? Nous, on a des bateaux qui arrivent du Maroc. Ils polluent l'atmosphère quand ils arrivent. Ils polluent l'atmosphère quand ils repartent. Il y a des avions, il y a des industries. Et on demande à l'individu lambda de respecter l'écologie. Non, moi, je suis pas écologie. Je fais attention, je respecte, je jette pas de papier dans la rue. Mais autrement, non.
Par exemple, il y a le débat ces derniers mois sur la question du nucléaire.
Eh ben, on devrait revenir sur le nucléaire. Moi, je pense que c'est la seule solution.
Sur le plan des mœurs, un sujet très différent. Il y a une dizaine d'années, il y a eu le débat, tu sais, autour du mariage pour tous. Et aujourd'hui, on parle de l'adoption pour les couples homosexuels.
J'ai eu dans ma famille des cousins homosexuels. Bon, il y en a un, le pauvre, est mort du sida. Il vivait en couple, hein, tout ça. Ça, j'ai rien contre, parce que chacun vit la vie qu'il veut. Ça, je le respecte. Par contre, où je suis un peu plus pointilleux, c'est dans un couple, il y a une mère, un père. Après, des fois, une mère, un père, l'enfant, lui, il souffre, parce qu'il a été mal éduqué, ou il y a des problèmes. Et on peut voir que dans certains couples homosexuels, que ce soit deux femmes ou deux hommes, l'enfant est plus stable, plus heureux. Donc ça se discute. Mais personnellement, pour moi, la famille, c'est papa, maman.
On passe à un autre sujet, la fiscalité. Le système d'impôts en France, est-ce que tu trouves qu'il est plutôt juste ou au contraire plutôt injuste ?
À partir du moment où on travaille et qu'on nous demande de payer des impôts, quoi de plus logique ? La TVA, on devrait la baisser, ça c'est évident, hein. Ça irait beaucoup mieux pour tout le monde. Mais non, j'ai rien contre... Ceux qui payent énormément d'impôts, c'est qu'ils touchent beaucoup d'argent à côté. Donc, non, moi je trouve que les impôts, c'est nécessaire pour un pays.
La question européenne, on ne l'a pas encore abordée. Est-ce que tu te sens, toi, européen, ou au contraire, est-ce que tu...
Moi, par rapport à l'Europe, je trouve qu'on est en train de perdre notre identité. On n'est plus la grosse force qu'on était avant. La France était respectée, était redoutée, tout ça maintenant. Quand on veut décider un truc, il faut que ce soit Bruxelles qui décide. Et ça me gêne. J'ai pas voté pour l'Europe. J'ai voté contre.
Ouais. À Maastricht, tu avais voté contre ?
J'ai voté contre.
Et en 2005 aussi ?
Aussi, j'ai voté contre.
Ouais. S'il y avait un Frexit, tu pourrais voter pour la sortie de la France de l'Union européenne ?
Ben non, parce que force de l'expérience des Anglais, oui, ils morflent hein, quand même. Hein. Ils sont sortis de l'Europe, mais bon, ouais. Les Anglais, c'est particulier, parce que c'est une île. Hein. Ils ont profité au maximum des avantages, mais les inconvénients, ils ne les voulaient pas.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire hein, pour la France dans l'Europe ?
Ben moi, pour la France, il faudrait éliminer certains pays. On aurait dû rester 7. On aurait dû rester comme ça. Là, on était fort.
Un autre sujet qui est aussi important, c'est la question des services publics en France. Est-ce que les services publics, pour toi, c'est important ?
C'est important pour les personnes âgées, surtout. Ouais. Moi, je dis que c'est très important. Mais par contre, il faut leur donner une valeur à ces gens-là, parce que moi, j'ai passé pas mal de temps à l'hôpital, et moi, je tire mon chapeau, hein, aux médecins, aux infirmières, aux aides-soignantes, à tous ces métiers, mais il les faut.
Alors, il y a eu un mouvement social, là, il y a quelques années maintenant, ça fait 5 ans, qui un grand mouvement qui s'est appelé le mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce que tu en as pensé quand le mouvement est arrivé et au fur et à mesure
du temps ? Ça a fait bizarre, au départ. Bon, après, j'ai adhéré à ma façon, quoi. Hein. Quand je les voyais dans les ronds-points, je faisais des signes, bravo. J'étais favorable, mais jusqu'à une certaine limite.
Et la limite, c'est quoi, quand il y a eu...
Ne pas bloquer le pays. C'est comme maintenant, ils bloquent le pays. Ça, je ne supporte pas. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, et on peut pas ne pas être avec eux, mais on ne peut pas bloquer un pays.
Justement, j'allais arriver à ce moment-là. Qu'est-ce que tu penses de la décision de repousser l'âge de la retraite à 64 ans ?
Alors, pour les métiers difficiles, je suis d'accord, 62 ans, c'est même 60 ans, ça aurait été mieux. Parce que bon, moi, qui suis dans la filière du bâtiment, donc j'ai vu hein, sur les chantiers. Hein. Après, 62 ans, 64 ans, 2 ans, franchement, on va pas nous raconter, ouais, mais c'est 2 ans, on va être rabataire à 64 ans. Mais c'est pas vrai, on vit plus longtemps. La médecine a fait énormément de progrès, on est mieux soigné qu'avant. Ça, c'était bon pour nos parents, ou un truc comme ça, ou même peut-être pour ma génération. Moi, j'ai travaillé jusqu'à 64 ans, je m'en plains pas. Hein.
On va terminer avec 2-3 petites questions. Toi, tu avais une vision plutôt positive, plutôt optimiste, ou au contraire pessimiste par rapport à l'évolution du monde ?
Je crois qu'on est mal barré quand même. Hein. Je pense que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Alors si en plus, ils parlent de sécheresse, si on a plus d'eau, on est mort. Hein. Moi, je suis un peu comme les Aztèques, les Mayas. Je crois au soleil et à l'eau. Après, les autres, pour moi, c'est du flan.
Quand tu as passé notre petit test en ligne, donc tu sais, il y a plusieurs catégories,
oui.
Et donc tu es arrivé dans une catégorie qui s'appelle les eurosceptiques.
Oui.
Est-ce que ça, tu t'es reconnu ? Est-ce que ça t'inspire quelque chose ?
Oui, tout à fait. Ça, j'ai constaté que finalement, j'étais bien dans le numéro 13. Hein. ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, parce que je suis... Pourtant, je suis quelqu'un d'optimiste. Hein. J'ai toujours été optimiste. D'ailleurs, c'est ce qui m'a toujours sauvé. Mais là, c'est tellement important qu'il y a des gens qui crèvent la faim, les pauvres qui souffrent. Il y en a d'autres moins, et il y en a d'autres qui vivent dans l'opulence. Alors, il faut essayer de faire un amalgame avec tout ça.
Bon, ben Michel, je te remercie.
Ben, je t'en prie.
Merci à toi.
On va continuer à se tutoyer.
Merci à toi.